Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Cyprien Cini.
Allez, 18h41, on va donc défaire le monde maintenant effectivement dans RTL Soir avec vous Cyprien Cini et toute l'équipe, la fine équipe, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info avec un autre regard, plus inattendu, c'est promis jusqu'à 19h. Au menu Cyprien.
Ce soir, on va vous présenter un agent de joueur de foot. Vous découvrirez comment les contrats et les transferts dont on parle tant se négocient en coulisses. À suivre également un petit tour en Sibérie, des femmes qui se rhabillent et un pass sanitaire d'un autre siècle. Enfin, on retrouvera un aventurier au grand cœur revenu d'un périple très mouvementé. On défait le monde, la quotidienne. C'est parti !
On défait le monde dans RTL Soir.
Et en cette soirée très foot, donc on démarre avec le son du jour.
Des transferts dans le football.
Ça grimpe toujours.
Les sommes sont absolument folles, elles ne veulent plus rien dire.
Ben oui, vous en avez parlé il y a quelques minutes dans les dessous de l'actu, Julien. Le possible transfert de Kylian Mbappé qui affole les compteurs et fait tourner la machine à fantasmes. Alors ce soir, eh ben on a voulu y voir plus clair sur le fonctionnement de ces transferts de joueurs de foot.
Oui, en se posant trois questions. D'abord, où va cet argent? Vous nous l'avez déjà demandé, Julien. Qui négocie et comment ça s'organise un transfert?
Et pour allumer la lumière sur le sujet, on a appelé Frédéric Guéra. Il est agent de joueur. Vous savez, les agents, ce sont ces acteurs centraux du marché des transferts. Et alors d'abord, on va être très clair. Les sommes dont on parle, 160, 180 ou même 220 millions d'euros pour Mbappé par exemple, cet argent, il ne va ni dans la poche du joueur, ni dans celle de son agent. Écoutez Frédéric Guéra.
Les sommes vont directement dans le club vendeur. Si vous voulez, l'agent a un mandat avec le joueur. La commission est variante entre 5 et 10% du montant du salaire brut du joueur pour l'agent. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le montant de transfert.
Donc cet argent, il va d'un club à un autre club. Mais concrètement, comment ça se déroule un transfert?
Alors, on va prendre votre exemple, Julien. Imaginez... D'accord. Vous êtes joueur de foot, hein, c'est faute d'imagination. Hein, et vous voulez changer de club. Dans l'ombre, voilà ce qui va arriver.
L'agent le sait bien en amont de la date de début de transfert. Et puis, on commence à interroger les clubs. On se déplace, on va voir les directeurs sportifs, les présidents. Lorsqu'il y a un intérêt, il faut essayer de travailler dans le calme. C'est-à-dire sans que vous, la presse, vous ne soyez informés. Toutes ces informations doivent rester le plus secrètes possible. Et donc, on avance à tâtonnement. Les prix du club acheteur sont donnés. Ils me disent, nous, on peut acheter à X. Ensuite, on fait le facteur, on va voir le club sortant. Jamais rien n'est écrit. Jamais, jamais, jamais. Parce que les clubs supposent que l'agent peut jouer le double jeu. Si un club me fait une proposition écrite, rien ne m'interdirait d'aller avec cette proposition écrite dans un autre club pour faire monter les enchères, par exemple. Donc, tout est dit verbalement. Les seules choses, d'ailleurs, qui sont signées, ce sont le jour de la signature.
Ah oui, donc il n'y a rien d'écrit avant le dernier moment de la signature. Ça, c'est assez hallucinant quand même.
Ouais, tellement hallucinant que parfois, il y a quelques surprises, comme l'explique notre agent Frédéric Guéra.
Je me suis retrouvé dans des situations à me déplacer avec mon joueur à l'étranger et me retrouver avec des propositions salariales divisées par deux par rapport à ce qui était annoncé au départ. C'était la dernière journée des transferts et on se lève et on s'en va, quoi. On se lève et puis il vous rattrape dans le couloir et vous dites non mais attends c'est pas on s'est mal compris et puis ils essayent encore de négocier légèrement à la hausse et puis on maintient la position de force et puis ils sont embêtés parce que finalement des journalistes étaient là à l'aéroport, ils nous ont vu arriver donc ils peuvent plus et des fois il y a des différences qui font que le ton monte sérieusement. Ça m'est arrivé aussi une fois de rentrer avec mon joueur de Majorque, parce qu'entre ce qui avait été dit et ce que nous avions trouvé sur place, on était loin de la vérité.
Vous le voyez, donc derrière les paillettes des transferts stars dont on parle tant, il y a une réalité qui est quand même un peu moins reluisante.
Effectivement, c'est un petit peu moins bling-bling. On a tout compris grâce à l'équipe d'En défait le monde.
RTL, sous les radars.
Et oui, tous les soirs, dans En défait le monde, vous découvrez, ici sur RTL, une info passée inaperçue.
Et alors, ces derniers jours, on a beaucoup parlé des incendies dans le Var. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le feu était enfin éteint. Mais alors Céline, ce soir, vous voulez nous parler d'autres incendies?
Oui, des feux qui sont, eux, quasiment éteints, selon les autorités russes. Et des feux qui ont ravagé pendant une grande partie d'été la Iakoutie, c'est en Sibérie. Et ces incendies ont été particulièrement violents. Plus de 17 millions d'hectares ont été ravagés. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais du mal à visualiser ce que ça pouvait représenter,
beaucoup,
17 millions
oui.
d'hectares. Eh bien, c'est plus que la surface de l'Angleterre, par exemple.
Ah,
alors,
ouais,
c'est énorme, rien que cet été. Oh. Alors, beaucoup expliquent ça par les conséquences du réchauffement climatique, mais les écologistes y voient aussi une autre explication. dimension plus politique, celle-là. Depuis 2015, en effet, en Russie, un décret gouvernemental permet aux autorités locales d'ignorer des incendies si le coût pour les éteindre dépasse les dommages estimés.
Ah, ça, c'est effrayant.
Mais alors,
ça.
Comment on estime les dommages estimés? C'est parce que c'est des forêts qui brûlent, par exemple, c'est impossible à gérer.
Bah, s'il n'y a pas de, d'habitation, d'usine, c'est évidemment.
Il y a 12-17 millions d'hectares
d'habitation en Sibérie, mais c'est absolument incroyable. Ces chiffres font froid, non plutôt chaud dans le dos.
Effectivement.
Merci Céline. Une petite pause et ensuite on va continuer de défaire le monde dans RTL Soir. On va vous livrer une petite info, tiens, pour briller ce soir au dîner. À tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
On défait le monde qui continue dans RTL Soir, 18h47 avant de passer à table, peut-être dans quelques minutes. Voici la première info pour briller, justement au dîner.
Oui, on va vous parler de quelque chose qui est très utile aujourd'hui. Mais qui date finalement peut-être pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas Laurent?
Bah, vous savez qu'il y a deux mots qui rythment notre vie depuis cet été, passe sanitaire, pour voyager, aller au restaurant, au cinéma. Et le Premier ministre Jean Castex en a parlé ce matin sur RTL.
On en a encore parlé il y a quelques minutes sur cette antenne, avec des maires qui réclament leur généralisation pour les salariés et du privé et du public.
Et son instauration dans toutes les entreprises qui n'est pas d'actualité. Mais ce système n'est pas nouveau, cocorico, c'est une invention française. Du 19e siècle.
Non. Eh oui. 19e siècle.
19e siècle.
Il y avait déjà un pass sanitaire au 19e siècle.
Je vais vous expliquer.
En 1800. Laissez-le parler, enfin.
Mais oui. Sinon, je vais perdre encore. En 1890, le choléra sévit en Espagne. Donc, pour empêcher sa propagation en France, le 18 juin, le ministère de l'Intérieur signe un décret qui instaure un passeport sanitaire. Chaque voyageur en clair qui voulait venir dans le pays était examiné par un médecin. Si vous étiez en bonne santé, bon. Pas de QR code, évidemment, à l'époque.
Sans blague.
Mais un papier pour préciser que vous n'aviez aucun symptôme jusqu'à preuve du contraire. Et encore mieux, une carte d'avis était adressée au maire de la commune où vous vous rendiez pour l'avertir de votre présence et ainsi rester sous surveillance médicale pendant la période d'incubation.
Incroyable. Le pass sanitaire date donc de 1890.
Je ne sais pas s'il y avait des manifs à l'époque.
Non, peut-être pas.
On défait le monde dans RTL Soir.
Alors, dans un instant, on va trancher loser ou winner. Juste avant, Céline Landreau, je connais votre passion du ballon rond. On fait un petit point tirage au sort, Ligue des Champions, parce que c'est en train de bouger. Vous le savez, c'est en ce moment. Il y a deux clubs français qui veulent connaître leurs adversaires, Lille et le Paris Saint-Germain. Nicolas Georgeron, suis ça en fil rouge avec vous. Ça bouge, c'est ça?
Oui, parce que le Paris Saint-Germain connaît son premier adversaire. Ce sera des retrouvailles. Celle de la demi-finale de l'an passé, Manchester City. C'est compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais ce sera aussi compliqué pour Manchester City. Évidemment, ce Paris Saint-Germain, on attend le premier adversaire de Lille qui devrait être fixé dans maintenant quelques instants. Bon. Et donc PSG,
c'est un peu
Manchester
le derby
City.
Du golfe persique, Manchester City, Paris Saint-Germain. Allez, on revient au loser ou au winner. Vous le savez, Céline, c'est la grande juge de RTL Soir. Chaque jour, elle tranche, elle désigne un gagnant ou un perdant.
Et alors, surprise, ce soir, visiblement, elle n'a pas réussi à se décider.
Bah, qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai, gagnant, perdant, c'est à la carte. J'ai un perdant, le topless, et un gagnant, le haut de maillot de bain.
Ah bah, forcément.
Le monokini, c'est fini. Sur la côte, le monokini n'a plus la cote. Fini le temps où les poitrines féminines s'exposaient sans réserve au soleil et au regard. Les baigneuses d'aujourd'hui obéissent à l'injonction de Tartuffe. Couvrez ce sein que je ne saurais voir.
Oui, car en cette journée mondiale du topless, l'IFOP nous confirme ce que vous avez peut-être observé dès cet été sur les plages, les garçons. Les Françaises sont toujours moins nombreuses à bronzer seins nus, 16% seulement des moins de 50 ans, alors qu'elles étaient 43% dans les années 80, presque 3 fois plus.
43%
des moins de 50 ans, oui. Et à Saint-Tropez, dans les années 70, on assumait très tranquillement cette nouvelle mode.
Je suis venue en vacances pour me faire bronzer, bien sûr. Et j'ai trouvé ça tellement agréable de pouvoir se mettre à l'aise, faire bronzer torse nu. Je trouve ça vraiment très, très agréable.
Mais comme c'était interdit, il fallait ruser.
Lorsque vous apercevez un képi à l'horizon, qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, à ce moment-là, nous nous retournons, nous nous mettons sur le ventre.
Pas bête la technique du ventre, hein. Car oui, à l'époque, le monokini était interdit. C'est resté interdit d'ailleurs sur la plage jusqu'en 1994.
Non.
Depuis 1994, bronzer seins nus, c'est autorisé sur ces plages, sauf dans certains lieux quand même, comme Paris Plage par exemple, où là ça reste interdit. Mais les gendarmes continuent parfois de s'en mêler.
L'adjudant, ça y est, les nudistes, tout ça poêle. Il faut agir immédiatement.
Non. Dans la vraie vie aussi, les gendarmes s'en mêlent parfois. Comme en 2020 à Sainte-Marie-la-Mer.
Plusieurs femmes sommées par des gendarmes de remettre leur haut de maillot de bain.
Deux gendarmes interviennent pour demander à plusieurs femmes de remettre leur haut de maillot de bain.
Une erreur, avait ensuite reconnu Gérald Darmanin, mais ce n'est pas tellement la peur du gendarme qui a poussé depuis les femmes à se recouvrir.
Attention de ne pas abuser des premiers rayons du soleil.
Oui, la peur du soleil, plutôt pour la moitié d'entre elles. Il faut dire qu'au niveau des seins, la peau est plus fine, particulièrement vulnérable. La peur aussi des regards concupiscents, des agressions. Enfin, la peur d'être prise en photo et de se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la e-réputation, dans les années 70, bah, ça n'existait pas.
Ouais. Oui.
Au soleil.
Complètement. Vous vous rappelez les chiffres ? 43% dans les années 80, 16% aujourd'hui.
Des moins de 50 ans, exactement.
D'accord.
Moi, et moi, je pratique le topless.
En fait, c'est,
personnellement.
C'est 19% c'est pour les femmes en général. Ça montre que les jeunes.
Arthur et Laurent aussi.
Non, non, moi, je m'abstiens, moi.
Garde un t-shirt, Arthur.
C'est mieux pour tout le monde.
Pour les coups de soleil.
Allez, une petite pause et ensuite, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Il y aura une info pour briller et on va aussi refaire un petit point Ligue des Champions. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini, on défait le monde.
Et à 18h53 dans RTL Soir, vous le savez, vous l'avez compris, c'est le fil rouge là en ce moment dans ces minutes de RTL Soir. Nous suivons en direct le tirage au sort de la Ligue des Champions dès qu'il se passe quelque chose. Nicolas Georgerot, dites-nous tout.
Eh bien, Lille connaît son premier adversaire. Ce sera compliqué. C'est le FC Séville, mais ça aurait pu être pire face au Barça, face au Real Madrid ou encore la Juve. Donc, mais le FC Séville pour Lille, premier adversaire, on rappelle pour le PSG, Manchester City.
Deux équipes qui jouent en rouge.
Merci de cette précision, Cyprien. Vraiment, vous êtes vraiment c'est un puits de science. On continue de parler sport dans On défait le monde.
L'info pour briller dans On défait le monde.
Effectivement, seconde info pour briller au dîner.
Elle est signée Arthur et vous allez nous parler Jeux paralympiques, Arthur.
Absolument, nous l'avons vécu ce matin. Alexandre Léauté a décroché la première médaille d'or française aux Jeux paralympiques en cyclisme sur piste.
Oui, et il est breton d'ailleurs, c'est important de le souligner.
Vive la Bretagne.
Ça aurait été étonnant que vous ne le souligniez pas. À propos des Jeux paralympiques, saviez-vous que sur les 22 sports présents, il y en a deux qui n'ont pas leur équivalent chez les valides.
Ah bon.
Il s'agit de la boccia et du goalball.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
La boccia, c'est de l'italien. Ça signifie la boule. En fait, c'est une sorte de pétanque. Ça se joue sur un petit terrain en intérieur. Les athlètes en fauteuil doivent lancer leur boule le plus proche possible d'une boule blanche qui fait office de cochonnet.
Ah ouais.
Et le goalball, alors, c'est quoi ?
Ben, le goalball, ce sont deux équipes de trois athlètes déficients visuels qui s'affrontent, masque sur les yeux, pour mettre tout le monde à égalité. Le but, c'est d'envoyer avec les mains le ballon rempli de grelots dans la cage adverse avec un rebond.
Très bien. Et donc, je dois choisir, comme chaque soir, c'est ça.
Quelle est la meilleure ?
La meilleure info pour briller au
dîner.
Tout
à fait.
Je vous conseille la boccia et le goalball ce soir pour briller au dîner.
Il y a deux épreuves qui sont pas pareilles entre Jeux paralympiques et Jeux olympiques.
C'est quand même fou, c'est vrai. Ouais. Ça on l'a appris ce soir dans On défait le monde. On apprend plein de choses. C'est la promesse jusqu'à 19h.
Marche ou rêve.
Et chaque soir dans On défait le monde sur RTL, on y tient, on vient vous voir, on met en valeur vos jolies histoires et de très jolies initiatives.
Alors ce soir, c'est une histoire qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'on va prendre des nouvelles de Claude. Claude, il était avec nous le 5 mars dernier. Il allait se lancer dans un défi humanitaire, c'était apporter des médicaments aux populations locales en Afrique.
Je suis quelqu'un qui aime pouvoir se lancer des défis à titre personnel. Et puis, si en plus de ça, on peut rallier une cause noble, je le fais avec un grand plaisir.
Alors ça, c'était avant de partir. Ouais. Laurent, depuis, il en est où ?
Bah, Claude est rentré en France le 14 août. L'ancien légionnaire a parcouru 6000 km le long du Nil. 6000 km. 6 pays ont été traversés. Le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Et il est en ligne avec nous. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Défi réussi, mais ça a été plus compliqué que prévu. Hein.
Oui, beaucoup plus compliqué que prévu. Ben, c'est surtout en fait les deux dernières semaines de cette expédition qui ont été vraiment les plus difficiles, j'ai envie de dire psychologiquement. Une détention en fait dans l'hôtel par la sécurité intérieure égyptienne due à une incompréhension et une gentillesse en fait d'un général à la frontière qui m'a laissé passer avec un visa touriste et qui a eu des répercussions plus tard, 800 km plus loin exactement, où j'ai été arrêté et donc une détention a commencé pendant 14 jours.
C'est-à-dire, il n'aurait pas dû vous laisser passer avec ce visa-là ? Expliquez-nous.
Exactement. En fait, malgré ce que je lui demandais en lui disant est-ce que j'ai besoin d'un permis, est-ce que j'ai besoin de ci ou de ça pour pouvoir continuer, est-ce que je n'aurai pas de problème sur mon chemin ? Non, tout va bien, vous pouvez y aller, vous êtes libre de faire ce que vous voulez en Égypte. Et ce qui était faux, en fait, hein, au niveau de la loi, c'est ce qu'on m'a dit après, égyptienne, pour les personnes qui veulent faire ce genre de choses que je fais, ont besoin, en fait, de faire une demande de permis. Ce général a voulu, je pense, être plus gentil et de me laisser passer tel quel, sauf que ça m'a valu beaucoup de problèmes derrière.
Et Claude, hormis ce qu'il s'est passé juste avant votre retour en France, que retiendrez-vous de toute cette aventure ?
Ça a été un ascenseur émotionnel intense. C'est toutes ces belles rencontres que j'ai faites avec ces ONG, tous ces orphelins et ces femmes vulnérables que j'ai rencontrées et qui, avec les sponsors, nous avons aidés. Et je pense que c'est surtout ce qu'il faut retenir à la fin.
Vous avez pu distribuer tous les médicaments prévus pour les populations locales ?
Exactement. Tous les médicaments ont été distribués, acheminés bien évidemment avec le respect des règles de froid maintenues et les aides financières aussi leur ont été données pour qu'ils puissent continuer à agir dans leurs propres actions au quotidien.
Donc ce genre d'aventure, c'est terminé ou vous continuez ?
Non, du tout. Alors dans un premier temps, il y a le film documentaire qui va sortir d'ici à peu près un mois. Sur la ville de Béziers, au cinéma de Béziers, et puis je rebondis sur l'Antarctique pour 2022, novembre plus précisément, essayer de faire 1500 km en moins de 54 jours pour battre un record. Il y aura un aspect scientifique et environnemental, bien sûr.
Merci beaucoup Claude, merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie, merci aussi à vous de m'avoir laissé un peu de temps pour pouvoir parler de tout ça et de m'avoir d'être revenu pour moi pour en parler.
À bientôt Claude, merci, on suivra donc vos aventures. Merci aussi à vous tous, hein, les amis dans Défait le Monde.
C'était un plaisir.
On a passé encore 20 minutes très agréables en votre compagnie. On vous souhaite une bonne soirée. On précise aussi aux auditeurs que demain vendredi, ce sera le cas tous les vendredis de la saison, on va non pas défaire le monde, mais défaire les régions le vendredi dans RTL Soir avec nos reporters aux quatre coins de la France. Et là encore, on vous le promet, les curieux seront satisfaits, on viendra au plus près de chez vous. Juste avant le journal de 19h.
C'est lundi, on dit qu'on
On vient lundi quand même.
Lundi,
18h40. Et en attendant, Cyprien Sini
demain matin,
ira faire du paddle en Normandie. Juste avant le journal, un nouveau point sur le temps.